J'enlève même mes chaussettes.
Au cas où les chaussettes fassent du bruit.
Au cas où je sois moins performant avec.
Oui.
Hey, je suis Alix et voici Train de Nuit. Salut Nero.
Salut Alix.
Bienvenue dans Train de Nuit.
Merci.
Je me pose la question de... Parce que je pense que t'as pas trop écouté quand même...
Non, pas trop.
Une part d'épisode. Ce train de nuit, pour toi, si t'es dedans et que tu vas te réveiller dans une destination à l'arrivée, est-ce que t'as un goût de cette destination? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête sur... ça pourrait être tu vois, un lieu physique comme l'Afrique du Sud ou le grenier de ta grand-mère, ou ça peut être d'aller retrouver un ami au Japon, ou ça peut être retrouver ton toi qui a 18 ans, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit ou pas?
Non, mais est-ce que tu me demandes mes attentes?
Soit ça peut être quelque chose qui s'impose à toi sans vraiment savoir si c'est une attente, une intuition ou autre, soit peut-être vers où tu as envie d'aller.
J'ai envie d'aller vers une conversation, qu'on discute, qu'on se connaisse un peu mieux, quoi. Mmh. Et qu'on partage des sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on apprécie, des choses qu'on apprécie.
Ok. Okay.
Et aussi des choses qu'on n'apprécie pas. Mais enfin, je veux dire, on a le droit de parler du Rassemblement National, quoi. Je veux dire, tu vois. Mmh. Si c'est pour cracher dessus. Je veux dire.
D'accord. Du coup, t'as peut-être un peu envie de te retrouver à la maison, quoi.
À la maison, ouais.
Ok, ça marche.
J'aime bien la maison. Je suis assez casanier. Ouais.
C'est vrai.
Mmh.
Ok. Ça veut dire quoi? Je pense que c'est un mot. Je pourrais jamais me dire casanier ou pas.
Ah ouais.
Ouais.
Pourquoi?
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mot très troisième personne, j'ai du mal à l'appliquer à moi.
Ok.
Ouais.
Je sais pas, moi je me dis ça parce que. On peut commencer direct dans les sujets un peu durs. Parce que j'ai l'impression de pas être très proactif ni dans les relations avec les gens que j'aime, ni dans ma vie en général. Voilà.
Ok.
C'est ça un peu ce qui se cache derrière ce terme. Mais j'ai l'impression, et je pense que je suis pas le seul, que c'est un truc de genre. Je pense que les mecs ont plutôt tendance à être comme ça, moins proactifs, et les meufs au contraire à plus l'être.
Ok. À l'intérieur, je serais d'accord. À l'extérieur, je suis moins. Enfin, je sais pas. Je peux facilement voir des mecs aller vers. Beaucoup d'accomplissement extérieur. Par contre, effectivement, dans le fait de, comme tu dis, de prendre les devants sur un truc plus dans une relation ou plus sur une attention, en tout cas, envers soi ou envers quelqu'un, effectivement, ouais, je pense qu'il y a quand même une espèce de truc un peu maussade qui est plus,
ouais.
qui est plus répandu. Ouais.
Mm-hmm. Mm. Effectivement, quand il s'agit de faire des choses extérieures, mais je suis pas sûr du terme, mais oui, effectivement, il y a quand même une dimension de la vie où les hommes sont proactifs. Mais pas, effectivement, pas la relation relationnelle. Enfin, au moins, en tout cas, bien sûr, il y a un spectre. C'est pas noir et blanc.
Ok. Ouais. Du coup, pour toi, casanier, c'est plutôt une critique? Ou il y a un plaisir aussi dedans?
Casanier, c'est pas que ça, en fait. Oui, effectivement, il y a aussi... il y a aussi un plaisir. Mais peut-être un plaisir par défaut ou par dépit, peut-être. Tu vois?
Je suis pas sûr.
Je sais pas.
Ok. Peut-être un peu, ouais. Bah, en fait, cette espèce de truc de. Il y a une facette force, une facette faiblesse de chaque propriété de.
Oui, oui, bien sûr.
De la vie. Donc, c'est un peu ça que tu veux dire. C'est d'un côté, il y a peut-être de l'inaction et d'un autre côté, il y a peut-être.
Il y a peut-être aussi des bienfaits, tu vois.
Ouais, ouais.
Okay. À se retrouver, à être chez soi, tranquille. Certainement, ça fait du bien. Être tout le temps actif en permanence, c'est. Je pense vraiment que c'est pas bon pour la santé mentale, mais après, bon...
Ok, ouais. Et du coup, est-ce que t'es bon à faire d'un endroit chez toi? Genre, par exemple, si t'es dans un train de nuit, est-ce que ça devient chez toi le temps de la nuit? Si t'es...
Ça devient pas chez moi, mais je suis assez bon pour nidifier.
Pour?
Pour nidifier.
Ok.
Pour faire un petit nid, quoi.
Ouais, ok. Ouais, c'est un peu ma question, ouais. Ok.
C'est-à-dire que mon fauteuil, ça va être à peu près chez moi, quoi. Mais je serais tout à fait conscient qu'il y a d'autres gens à côté et je serais pas chez moi dans ce sens, quoi.
Ouais, bien sûr, mais en tout cas, c'est...
Mais je pourrais être à l'aise, oui.
Ok. Alors que moi, je pense qu'il y a... C'est pas le cas. Déjà, je pense qu'il y a quelque chose de... Je pense que moi, j'ai un vrai besoin d'espace privé. Genre, quand c'est chez moi, j'ai besoin de savoir que si j'ai besoin que personne rentre dans mon espace à un moment, que ça soit possible. Ça, pour moi, c'est une propriété qui est inaliénable du chez moi. Et du coup, j'ai... Surtout historiquement, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à vraiment me sentir à l'aise ou me relâcher dans des espaces davantage publics ou en tout cas sur lesquels j'avais moins de maîtrise. Aujourd'hui, c'est mieux, mais ça reste quelque chose qui est... Ouais, je pense que vraiment, je suis pas autant à l'aise que toi, quoi.
Ouais, peut-être. Après, je suis jamais à l'aise au point de dormir, mais ça, c'est peut-être un autre problème.
Ok.
Mais oui. Oui, de manière générale, je suis assez à l'aise en public. Mais moins quand même depuis certaines années.
Ok.
Bah, je sais pas, tu vois, je compare à ce moment un peu où tu deviens adulte, début de la vingtaine, par là, et où vraiment la ville t'appartient. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Ouais, je vois. Et...
Plus maintenant.
Ok. Mais du coup, c'est moins fluide ? Genre, il y a un... Ou c'est juste moins d'intensité ou moins de... Je veux dire, est-ce que... comment dire ? Il y a peut-être moins de quantité de choses que tu te permets parce que peut-être tu faisais des choses, par exemple, peut-être qui étaient connes, je sais pas.
Mm-hmm.
Mais est-ce que dans les choses que tu fais aujourd'hui, il y a autant de souplesse et de fluidité, peut-être même plus ? Ou est-ce que tu as aussi perdu là-dessus ?
De souplesse et de fluidité.
Je veux dire, est-ce que dans ton... moi, je vois que... On en a parlé en plus juste tout à l'heure, avant de démarrer l'enregistrement. Je pouvais faire des conneries avant, quand j'étais ado ou autre, qui me faisaient beaucoup rire et qui je regarde encore en riant, mais que je ne ferais plus aujourd'hui.
Oui, ça je fais. Parce
que moralement, ça me pose des questions et tout.
Ouais.
Donc, je fais peut-être moins de choses. Mais par contre, je pense que dans ce que je fais... Je me sens plus juste dans mon approche des choses que je fais.
Alors plus juste, je pense que oui, oui.
Ok.
Oui. Mais de là à dire fluide et souple, je sais pas.
Mais tu trouves qu'il y avait peut-être un mieux avant ?
Y avait un mieux dans le sens où mon champ des possibles était plus large.
Ouais, d'accord.
Alors après, effectivement. Il y a plein de choses que je faisais ou que j'envisageais dans mon champ des possibles que je ne peux plus envisager pour des raisons morales.
Ouais.
Mais c'est quand même un petit peu... Enfin, je sens que le champ est quand même réduit au-delà des raisons morales.
Mmh.
Qu'il y a encore d'autres choses qui ont disparu de mon champ des possibles. Et sans vraiment de raison.
Ok, t'as des exemples ?
Je sais pas, je suis beaucoup moins spontané qu'avant, par exemple.
Ok.
Ouais. Un exemple un peu vague, mais j'ai rien pointé du doigt encore.
Genre de dire oui à des choses sans raison ?
Ouais, par exemple. Ouais.
Et du coup, ce qui vient à la place du oui aujourd'hui, c'est du désintérêt, c'est de la peur, c'est...
Ouais, bah ça dépend des situations, ouais.
Ok.
Peur, désintérêt, tout à fait.
Donc il y a des choses qui te font peur aujourd'hui, qui te faisaient pas peur avant ?
Ah, je pense, ouais.
Ok.
Ouais, ouais. Bah, j'ai grandi.
Ça veut dire quoi, ça ?
Bah, j'ai appris de nouvelles choses.
Et donc, t'as plus peur ?
Et donc, il y a des choses qui font peur. Quand on apprend des choses, on apprend aussi...
Ah, moi, justement, j'ai l'impression d'aller vers plus de liberté de mouvement et moins de peur, vraiment.
Il y a des choses que... bon, on va les nommer. Je pensais aux oppressions systémiques de la société, par exemple. Voilà, j'en avais pas du tout conscience au début de la vingtaine, ou je voulais pas en avoir conscience, c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus conscience.
Okay.
Et ce genre de connaissances ou de révélations, je sais pas comment, entraîne des peurs, oui, bien sûr.
Okay, ouais. Qui du coup t'affectent dans tes choix qui demandent rien à personne.
Ouais, bien sûr. Okay. Ouais.
Mmh. Bah, tu vois, par exemple, l'exemple que je donnais moi tout à l'heure, que j'essaie d'expliquer, récemment, par exemple, je me rappelle d'un moment où une amie m'a demandé si j'avais du... si je me sentais supérieur ou si j'avais peut-être du mépris pour parfois des gens, tu vois, que je connais pas, que certaines, je sais pas, certains types de personnes ou des gens que tu vois dans la rue comme ça. Et je lui disais, non, vraiment, j'ai plutôt l'impression, au contraire même d'ailleurs, d'être plutôt dans un état d'avoir à apprendre, de à peu près, chaque personne a peut-être un truc à m'apprendre. Et là, très récemment, je me rends compte que cet état qui était stable de, peut-être j'ai des choses à apprendre de chacun, était stable sur une couche émotionnelle particulière, qui était elle-même des peurs ou des trucs comme ça inconscientes, qui aujourd'hui sont plus là. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai effectivement un sentiment de supériorité envers des fois des gens que je croise. Donc c'est moins cool qu'avant, entre guillemets. Mais parce que j'ai aussi enlevé d'autres peurs et tout. Et en tout cas, moi, je le vois comme un état temporaire, ce truc de peut-être me sentir supérieur aujourd'hui là-dessus, parce que je suis sur une couche émotionnelle qui, ensuite, ça passera à une autre. Mais ouais, moi, je le vois plus dans ce sens-là, le fait de pouvoir me sentir plus limité en avançant en âge que sur des choses de pensée rationnelle. Je pense que j'aurais du mal à accepter que, même si je me rends compte de choses comme ce dont tu parles dans la société, j'aurais du mal à leur donner l'autorité de me limiter, en fait, dans mon expérience à moi, subjective.
Ah ouais ?
Ouais.
Non, faut que je trouve un exemple.
Je t'en prie.
Bon, ok, j'ai un exemple facile. Je trouve que quand on regarde des œuvres culturelles, regarde ou écoute ou n'importe, la plupart de ces œuvres sont des œuvres sexistes. De manière assez générale, parce que la société est comme ça, tu vois. Et quand, moi, j'ai l'impression que quand on se rend compte de ça, ça gâche les œuvres, en fait. Je me suis vraiment retrouvé à regarder les films de mon enfance avec, sous un prisme féministe. Et voilà, et l'œuvre est gâchée, quoi. Voilà, c'est ça mon exemple. Est-ce que ça t'est jamais arrivé?
Et c'est quelque chose qui est... Parce que là, tu parles du coup de revoir des films d'avant, mais dans, ouais, des, donc, dans des découvertes d'aujourd'hui, ça te limite autant depuis que tu t'es rendu compte
ouais,
de
ouais,
ça
ouais. Okay. Bah, ça me limite moins, c'est moins fort, parce que les trucs de l'enfance, j'avais kiffé quand j'étais petit, tu vois.
Ouais.
Et je me rends compte aujourd'hui des défauts que le truc avait. Et ça me peine. Donc forcément, y a un truc en plus d'affect avec l'enfance. Mais même dans des œuvres... que je découvre adulte, il y a clairement des choses qui les gâchent.
Ok.
Par exemple, il y a un an, j'ai essayé de lire La Horde du Contrevent.
Ouais.
Et bah, le fait que les personnages féminins soient soit des cuisinières, soit des soignantes, soit juste des objets sexuels. Bah, ça m'a vraiment gâché l'expérience de lecture du truc, quoi.
Je pense que quand ça m'arrive, ce genre de réalisation, j'ai tendance à me dire que c'est une évolution et que tu prends un échantillon à un moment et que peut-être, comme tu disais, les films de ton enfance, c'était vénère, ce truc là aujourd'hui c'est peut-être moins, du coup on n'est pas ouf, mais on a l'air d'aller vers du mieux. Donc, peut-être faut avoir l'humilité en tant que société de se dire qu'on en est là. Et j'ai aussi tendance à regarder les choses de manière individuelle, c'est-à-dire de me dire, ben, cette œuvre-là, il y a ce truc-là avec lequel je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas laisser ça me gâcher mon approche, être blasé sur la littérature, tu vois.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais j'arrive pas à me dire ça. Enfin, si, pour certains trucs, oui. Mais j'ai besoin d'arguments rationnels, quoi.
Ouais, je vois. Alors que moi, justement, j'ai l'impression que ça passe surtout pas par des arguments rationnels. Parce que je trouve que les arguments rationnels sont souvent assez déconnectés du ressenti.
Ouais.
Et ça serait tragique de me limiter dans mon expérience subjective sans même écouter mes ressentis. Alors, je saurais pas te dire pourquoi, je crois. C'est-à-dire qu'en gros, tu décides rationnellement que tu es limité.
Bah,
alors que peut-être ton cœur aurait dit ça me va.
Vraiment pas, parce que clairement, le fait que l'œuvre soit gâchée, c'est pas une décision rationnelle. C'est pas, je me suis pas dit.
Non, je pense que
finalement, j'aime pas cette œuvre, tu vois. C'était pas. Enfin, si, je me suis dit ça, mais après avoir ressenti le truc, je veux dire, c'était pas.
Ouais. Non, mais par contre, la généralisation et l'identification d'une tendance qui se répète, etc., ça, c'est quand même assez rationalisé, je pense.
Oui, oui, oui. Ben. Oui, c'est rationalisé. En même temps, j'ai l'impression que c'est réel. Qu'effectivement, la tendance sexiste, elle est partout, quoi. J'ai dit sexiste, mais il y a aussi raciste, validiste, enfin, tout ce que tu veux. Pourquoi on parlait de ça ?
La question de est-ce que on est parti de Casanier et je ne sais plus trop comment on est arrivé au fait que tu sentais peut-être plus de peur qu'avant ou plus de moins de spontanéité ou plus.
Ouais, tout à fait.
Du coup, il y a peut-être des choses qui te plus de considérations qui te peut-être qui te prennent un peu plus la tête en faisant une décision.
Ah ouais, bien ouais, c'est sûr. Ouais, j'ai beaucoup plus de mal à prendre des décisions aussi qu'avant. Bon, enfin, j'ai jamais été très bon pour prendre des décisions de manière générale.
Ok.
Mais j'ai l'impression que le truc se dégrade. Enfin, je dis se dégrade. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pas de.
Et du coup, parce que moi, par exemple, tu vois, j'ai l'impression d'être très très bon pour prendre des décisions. Et j'ai aucun problème, par exemple, à trancher entre plusieurs options ou ce genre de choses. Et là, dans ce qu'on vient de dire, t'as l'air de plus utiliser ton rationnel que moi dans ton approche de, par exemple. Bon, là, on a pris l'exemple de l'appréciation de la littérature. Je sais pas, ça veut dire quoi ? Est-ce que du coup, tu utilises davantage ton rationnel parce que tu sais que tu fais moins des bonnes décisions intuitivement ? Est-ce que c'est étonnant ce miroir où tu as l'air d'être plus rationnel que moi dans ton approche de la vie et tu as l'air de dire que tu prends des décisions moins bien que moi, enfin moins facilement que moi ?
Mais effectivement, j'ai besoin, pour prendre des décisions, qu'il y ait des arguments rationnels.
Okay.
D'avoir des éléments vraiment ouais, rationnels pour décider. Et c'est très. Souvent, les décisions à prendre sont. C'est très difficile de trouver des arguments. Comment on dit ? Des arguments forts vers. Un côté ou un autre. Je sais pas, par exemple,
ouais,
on doit choisir, je dois choisir une date de départ pour aller à tel endroit.
Pire, ça.
Tu vois ?
Ça serait compliqué.
Donc, j'ai plein d'options. J'ai des options sur la date, sur le trajet, enfin sur le mode de transport, etc. Et je réfléchis des plombes et je sais pas, tu vois. Et j'envisage le truc longtemps à l'avance. Je me dis alors comment je vais faire ? Est-ce que c'est ça le bon choix ? Il y a aussi le côté financier, il y a aussi le temps de trajet, tu vois. Bon. Et donc ouais, j'ai besoin vraiment d'avoir beaucoup réfléchi. Je pourrais pas prendre une décision comme ça.
Ok. Bah écoute, je pense que c'est tout indiqué pour te. Je t'ai amené une carte postale.
Ok.
Pour te laisser la découvrir. Parce que du coup, j'amène toujours une carte postale à l'invité et.
Très gentil.
Donc c'est une carte postale très graphique à chaque fois. Et c'est toujours un choix très très intuitif qui est pas du tout conscientisé, mais c'est choisi pour l'invité.
Okay.
Et le jeu, c'est un petit peu de peut-être se poser la question de est-ce qu'elle te ressemble cette carte et pourquoi oui ou non en fait.
Ok. Alors attends.
Tu veux de l'aide ?
Il y a un timbre.
Il y a un timbre avec.
Ah, comme ça, tu pourras en faire bon usage.
Alors. Ah, juste un œil. Pas juste un œil, mais.
Alors, la carte est vide parce que le jeu de l'épisode, c'est un peu de. À la fin de on se laisse jusqu'à la fin de l'épisode pour voir Est-ce que tu as envie d'écrire quelque chose dedans et de l'envoyer à quelqu'un?
Ah, c'est vraiment pas mon genre.
Ok. Pourquoi?
Je pense que j'ai pas envoyé de carte postale depuis 20 ans. C'est pas mon truc. Je prends très peu de photos aussi.
Ouais, pareil.
Alors, est-ce qu'elle me ressemble? J'aime bien parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Enfin, je crois. C'est comme ça que je me perçois, en tout cas. Mmh. Et y a un côté un peu observateur, tu vois. Je trouve... On peut regarder le monde. Ben regarder le monde, ça permet de réfléchir. Non, non, je me perds un peu. J'aime bien le personnage du vieux sage. Mmh. Tu vois, qui est assis sur sa chaise et qui regarde les autres. Qui contemple un peu, voilà.
Ok.
Voilà. Donc je trouve, ouais, ça me ressemble un peu.
Tu veux la décrire un peu pour les auditeurs?
Je peux la décrire, tout à fait.
Il y aura un lien vers une photo en description.
Ok, aussi. Ok. Donc elle représente un œil, mais encore une fois, est-ce que bon, alors comment on dirait, on voit la prunelle de l'œil, l'iris c'est plutôt dans les jaunes orange qui s'en va vers le noir, c'est un dégradé du jaune vers le noir, et il n'y a pas de cils ni de paupières. Si, il y a une petite paupière. Il y a une petite paupière noire. Et le tour de l'œil plutôt, l'œil est entouré par des ronds de couleurs. Enfin, pas des ronds, mais ça fait la forme de l'œil. De couleurs. Donc, successivement. Bleu, doré, vert et redoré.
Tu t'arrêtes quand tu veux.
Non, non.
Ok.
Et, et ces ronds-là sont en pointillés. Et le tout est un peu en relief. Il y a du relief. Il y a un côté un peu égyptien avec une espèce de, ouais, de truc qui passe par-dessus l'œil et qui finit avec une petite virgule. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment le décrire avec des mots autrement.
Tout à fait.
Faudrait que je réfléchisse plus.
Je peux la revoir, hein, parce que du coup, j'essaie de pas trop la regarder avant. Ouais, et il y a ce truc un peu de... En fait, il y a cet œil, on voit pas vraiment la paupière, quoi, on voit juste les cils. Et après, la forme est suggérée en pointillé autour de l'œil. Et tout le reste de la carte est vert.
Ah oui, j'ai oublié
foncé,
le fond.
Presque émeraude, quoi. Et du coup, il y a presque cette impression, je trouve, qu'il nous regarde de derrière quelque chose, derrière ce fond vert, quoi. Il y a un peu cette idée d'une ouverture sur l'œil.
Ah ouais, ouais, j'ai pas trop vu ça.
Ok.
Mais chacun interprète comme il veut. Tu disais que tu avais choisi cette carte de manière très intuitive. Mm-hmm. Ça m'intrigue parce que c'est quelque chose que je suis complètement incapable de faire. Je me suis retrouvé plusieurs fois à devoir faire des exercices un peu d'impro. Mm-hmm. Et à chaque fois, je suis bloqué de ouf. Il y a vraiment rien qui vient, quoi. Mm-hmm. Voilà. Donc ouais. Ça m'intrigue vraiment cette capacité qu'ont les gens à faire ce genre de choix ou à produire des trucs spontanés parce que j'en suis incapable.
Voilà. Ok, ben, je pense que je viens vraiment, vraiment du même endroit que toi. Tu vois, quand les gens me disaient mais là, faut que tu débranches ton mental. Je voyais même pas qu'il y avait un bouton en fait pour faire ça.
Ouais.
Et si tu essaies de débrancher ton mental avec ton mental, en général, c'est comme quand tu essaies de t'enlever un bout de scotch des doigts, quoi. C'est... Il se colle juste sur l'autre doigt. Je pense que moi, il y a deux approches que j'ai. C'est... Il y a l'approche, un peu comme on disait, de passer par mes ressentis. Et d'ailleurs, je pense que j'ai tellement longtemps été dans le mental. Avec les limitations que ça peut comporter, que c'est peut-être pour ça que je te disais que sur la question de est-ce que une œuvre qui est reloue sur un certain point va me... Est-ce que je vais la laisser me déranger ou pas, je vais avoir tendance à passer par mon ressenti Je pense que j'ai vraiment exploré les limites du mental. Et quand je sens que je vais toucher à des limites du mental, genre un mental qui va me... Si rationnellement, je me dis le monde est sexiste, c'est de la merde, je sais que je vais pas prendre cette route parce que je sais très bien où je vais arriver et que ça va... le voyage va pas être très, très fun, quoi. Du coup, je vais plus passer par le ressenti. Et après, je passe aussi beaucoup par le... J'ai beaucoup tendance... Je pense que quand je suis face à une situation où j'ai pas la solution, je vais m'abstraire totalement et passer dans un domaine spirituel, un peu d'idéalisme, et me dire dans un monde où rien n'est incarné, rien n'est matérialisé, qu'est-ce qui serait juste là? Et souvent, je vais revenir dans la situation en tenant cette justesse-là. Attends, faut vraiment que j'essaie de trouver un exemple, parce que là, je sens que je te perds.
Oui, c'est pas très clair.
Mais ça pourrait être, tu vois, dans des situations de conflit ou ce genre de choses, de me dire... c'est très dur, des fois, de se dire qu'est-ce qui pourrait être la chose juste à dire ou à faire valoir entre moi, je suis déjà un peu crispé, la personne aussi, qu'est-ce qu'elle va pouvoir entendre, il y a peut-être d'autres parties prenantes et tout. Et je pense que en l'absence d'une réponse claire, je vais aller chercher est-ce qu'il y a un principe qui me paraît important à respecter pour l'un ou pour l'autre. Et si c'est le cas, de revenir avec ce principe-là et d'essayer de le faire appliquer ou d'essayer de le suivre. J'ai pas d'exemple précis récent, donc c'est un peu dommage.
Et puis surtout, je vois pas en quoi ça explique comment tu fais pour, okay. Pour prendre des décisions spontanées, quoi.
D'accord.
Ou intuitives.
Pour la carte, en fait, je pense que je me connecte à ce que je ressens de un peu Nero si j'ai les yeux fermés, tu vois. Si j'oublie son physique, si j'oublie sa voix, si j'oublie machin, qu'est-ce qui reste en fait comme, un peu comme quand on te dit y a Nero qui va arriver cet après-midi. Tu vois, c'est quoi le premier feeling que t'as en fait Tu vois, si c'est... t'as des gens, ça va être un feeling paternel, t'as des gens, ça va être une espèce d'excitation, t'as des gens, ça va être de la crainte, t'as des gens, ça va être... Et j'essaie de me connecter à ça et de voir quelle carte m'évoque ce truc-là en fait. Et sans le nommer, des fois, enfin la plupart du temps, je sais moi-même pas bien où ça commence, où ça finit, etc. Mais... J'essaie de trouver une fibre qui est un peu commune avec la carte. Ouais. Et c'est marrant, tu vois, parce que tu parlais du sage et tout, que l'œil t'évoquait ça. Et je pense que, à mon avis, si j'essaie de le retracer maintenant, je pense que la chose qui m'a peut-être le plus guidé, c'est que je trouve que... Du coup, on fait de l'acro-yoga ensemble.
Mm-hmm.
Et je pense que dans le groupe d'acro-yoga, tu m'évoques d'être la personne... qui est un peu comme un chêne qui est ancré le plus profondément dans le sol de tous. Tu vois, comme s'il y avait plusieurs arbres et celui qui a les racines les plus profonds. Et il y a un peu cette idée de doyen qui est connecté à une... je sais pas, à un savoir ou à une histoire ancestrale à laquelle personne d'autre n'a accès aussi profond que ça, en fait. Tu vois ?
Alors, je le prends vraiment très bien, ça me touche beaucoup. Et... merci. Mais... blabla. T'es pas la première personne à me dire ce genre de choses.
C'est vrai ?
Ouais.
Ça se passe, c'était sous quel genre de mots en général ?
En général, c'est sage plutôt que les gens disent.
Ok.
Ou ancré, c'est. Okay. On me dit souvent ça, ouais. Ouais. Et même au travail, mes chefs, ils m'ont dit que j'étais le sage de l'équipe, tu vois.
Ouais, bah tu vois, je pense que c'est pas pour rien. Ouais.
Ouais, ouais bah ouais, je sais pas, j'aime bien comprendre les choses.
Mmh.
Voilà, je pense que c'est pour ça.
Et tu me disais aussi avant qu'on enregistre que t'aimais beaucoup transmettre, c'est un truc
ouais,
que t'avais.
J'aime beaucoup transmettre. Ouais.
Et bah, je pense que s'il y a un rôle pour le sage, c'est bien ça quoi.
Mmh.
D'ailleurs, est-ce que toi ouais, la ouais. transmission implique forcément de. Tu vois, un peu comme dans une. D'ailleurs, tu vois, on parlait de que moi j'ai tendance à revenir à des trucs un peu idéalisés. Quand je dis idéalisé, c'est pas forcément la version la plus cool. Mais c'est une version schématique, en fait, symbolique presque. Et je sais que quasiment toutes mes prises de décision depuis des années, si j'ai un doute, je vais m'imaginer la situation telle que si on vivait dans une tribu ancestrale, en fait. Okay. Parce que pour moi, c'est peut-être la forme... Il y a une pureté dans les relations entre les gens, dans les rôles sociaux, dans les...
Ouais.
Et je vais beaucoup revenir à ça. Plutôt que de, tu vois, le brouhaha un peu parasite des complications qu'il peut y avoir entre... genre, par exemple, si tu te dis, est-ce que c'est juste certains trucs sur les réseaux sociaux, mm-hmm. c'est très compliqué à décortiquer. Par contre, tu te dis, ok, la personne qui fait un truc sur les réseaux sociaux, c'est à tel besoin chez elle qu'elle répond en faisant ça. Est-ce que dans une tribu de 10 ou 15 personnes, ou 20 ou 30, ce besoin-là, il est légitime? Et est-ce qu'on l'exprime de la même manière et tout? Et ça m'aide à revenir et à me dire, à statuer sur la justesse ou pas de ce truc-là sur les réseaux sociaux, par exemple.
Ok. À faire fonctionner un peu ton, ta machine morale, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais, ouais. Je sais pas si c'est une bonne méthode ou pas, mais...
Je sais pas, mais moi, je sais que c'est un besoin pour moi.
Si ça fonctionne. Si ça fonctionne pour toi. Je sais pas, je pense que... Il y a quand même des décisions... Tu peux pas... Pardon. Tu peux pas prendre de décisions aussi fines dans un contexte archaïque au sens neutre du terme. Mmh. Parce qu'il y a des concepts qui n'existaient pas, tu vois.
Ouais, après ça, c'est plus des décisions sur mes positions à moi, pas sur pour arbitrer un groupe, tu vois, par exemple. Mmh. Mais ouais, ouais.
Ouais, ouais.
Et je pense que, voilà, j'avais une question sur le fait de transmettre. Est-ce que pour toi, si on prend cette idée du chêne qui a les racines les plus profondes ou de l'ancien du village qui a vu des choses que personne d'autre n'a vues, parce que personne n'était vivant, est-ce que pour toi, transmettre est forcément connecté à ça, à toucher un savoir que personne d'autre n'a dans le village ou pas?
J'ai jamais réfléchi à cette question.
Bah, chez toi, qu'est-ce qui motive de transmettre? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un... Tu vois, c'est...
Je sais pas ce qui me motive pour transmettre.
Parce que par exemple, je pense que chez les personnes plus âgées, c'est assez... Je pense qu'on a naturellement, à différents âges, des rôles sociaux. Tu vois, quand on en parlait tout à l'heure un peu, quand on est ado, on a envie de s'affirmer individuellement. Et je pense que plus tu vieillis et plus tu as envie de transmettre, parce que tu as sûrement, statistiquement, il y a plus de chances que tu aies plus de connaissances que la personne plus jeune que toi. Du coup, il y a un peu ce truc-là, quoi.
Je sais pas pourquoi j'ai envie de transmettre. Je dirais que c'est un truc un peu égotique, hein, pour laisser des traces, okay. Tu vois. Mais de toute façon, c'est toujours égotique. Mais je veux dire, c'est aussi pour aider. Il y a des situations où c'est important de connaître des choses pour pouvoir avancer. Je pense aux enfants. Tu vas transmettre des connaissances de base, c'est pas que, même c'est pas du tout pour laisser une trace, c'est plutôt pour aider la personne à avancer dans sa vie, quoi. Je sais pas, apprendre à faire ses lacets par exemple, un truc simple, hein. Enfin, ouais. Simple, con plutôt, enfin pas con, enfin bref, c'est pas forcément facile, il y a beaucoup d'enfants qui galèrent, bon.
Ouais, ouais, voilà. Je vois.
Tu sais, t'as dit le vieux sage, tout ça, et je pense que je suis vieux.
Ouais.
Et je suis vieux depuis longtemps et je l'ai pas trouvé tout seul, hein. Il y a aussi des gens qui me disent ça. Ouais. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire.
Ça veut dire quoi être vieux pour toi? Ouais. Ça a quelle caractéristique?
Ben je sais pas. Par exemple, j'aime bien faire des trucs de vieux, tu vois. Je fais des mots fléchés.
Ok.
J'aime bien juste me poser avec des copains et discuter, tu vois. Ouais, des trucs simples.
Ah, je pense que j'ai un truc un peu... Je dirais pas que je me sens vieux comme toi, mais par contre, je pense que quand j'avais 20 ans, je traînais beaucoup avec des gens de 30 ans. Ouais. Là, j'ai 30 ans et je traîne beaucoup avec des gens de 40, 45. Et ça a toujours été un peu une constante. J'ai l'impression de... Autant, ça me fait beaucoup de bien à chaque fois que je reviens avec des gens de mon âge, parce qu'il y a quand même une espèce de... d'excitation. Plus enfantine qui reste un besoin chez moi et qui est cool de retrouver, mais dans 75% du temps je me sens plus naturel avec des gens souvent plus âgés. Ouais.
Ok,
pareil sur des discussions, sur des...
Ah ouais. Ah, j'avoue, moi non, je me sens pas plus à l'aise avec des gens plus âgés. Ni avec des gens plus jeunes d'ailleurs. Je pense que... Je sais pas, j'arrive pas à identifier de tendance en fait. Mais je... Tu vois, parce que j'ai envie de dire un truc un peu bateau, genre, c'est pas une question d'âge. Mais dans la réalité, je pense un peu quand même. C'est-à-dire que je m'entends mieux avec des gens de mon âge, ou pas loin, quoi. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression que les vieux sont trop éloignés. Et je sais que c'est une erreur et qu'il y aurait beaucoup de choses à apprendre en allant parler aux vieux. Mmh. D'ailleurs, c'est des choses que je regrette de pas avoir parlé à mes grands-parents, par exemple.
Du coup, cette carte, elle t'évoque autre chose que le vieux sage ?
Je te dis, il y a un côté un peu Égypte,
ouais.
Avec le dessin des sourcils. Des sourcils. Mais pas grand chose d'autre. Un peu de mystère quand même. Ça va avec, ouais, ça va avec l'Égypte.
C'est vrai. Je la regarde aussi.
Ah, le timbre.
Ah. Il a l'air jeune quand même, cet œil, je trouve.
Jeune ?
Non ?
Ah ouais ? J'aurais pas dit jeune parce que. Mais ni vieux parce que il ressemble pas assez à un œil humain.
Ok.
Je dirais plutôt il a pas d'âge. Il est.
D'accord.
Un peu comme les représentations égyptiennes. Tu peux pas vraiment dire leur âge.
Donc il est dans la primeur de...
Du coup, c'est ce que tu veux. Hein. Si tu veux qu'il soit jeune, il est jeune. De toute façon, c'est ce que tu veux. Mais...
ouais, puis avec ses pointillés dorés autour, il y a presque un truc un peu coquet.
Ah ouais.
Tu vois, il s'est paré.
Il a pris soin de lui, quoi.
Ouais.
Il s'est apprêté.
C'est quelque chose que tu peux faire, ça ?
M'apprêter ?
Ouais, en tout cas... prendre soin à créer du beau juste parce que.
Ouais, carrément. Ouais.
T'as des exemples en tête ?
Ça dépend ce que t'appelles du beau. Je veux dire, ça sera pas forcément un beau graphique.
Ah ouais, non, pas.
Mais par exemple, j'aime bien siffler. J'aime bien chanter. Alors, selon mes amis, je chante très mal, mais.
Mais il y a une application pour toi ?
Ah non, il y a pas d'application. C'est juste. Des fois, je chante. Quoi.
Du coup, qu'est-ce qui fait que c'est beau si c'est pas. Si tu t'appliques pas à faire quelque chose.
Ah ! Si, je m'applique.
Ok, d'accord.
Mais il n'y a pas de but, c'est ça que je voulais dire.
Ouais, ouais.
Je pensais.
Ah oui, une application. Dans un. Ouais. Vers un objectif. Quoi.
Okay. Mais oui, je m'applique, oui, bien sûr. Oui. D'accord. Sinon, oui. C'est pas. Oui, oui.
Ah, je suis pas sûr que ce soit tout le monde hein, qui s'applique dans le fait de chanter ou siffler un peu au détour d'un moment du quotidien, quoi.
Ah ouais, c'est tous les jours.
Je pense que beaucoup de gens peuvent chanter ou siffler, mais peut-être de manière plus nonchalante, tu vois.
Mm-hmm. Bah, c'est aussi beau si c'est nonchalant.
Ah oui, tout à fait.
Qu'est-ce que je fais aussi ? Je fais de l'origami.
Okay.
Je peux te montrer si tu veux. Voilà. Ouais, j'aime bien faire des trucs comme ça. J'aime bien les trucs minutieux.
Ok, ouais. Ouais.
C'est aussi pour ça, je pense, que j'aime bien l'accro. Parce que c'est très minutieux, en fait.
Ouais, il y a un truc... enfin, c'est moi, tu vois, par exemple, je vois vraiment l'idée de prendre le temps de maîtriser un artisanat et la beauté et la justesse de ce moment, un peu comme on peut imaginer dans la tradition japonaise, par exemple. Et autant, j'ai jamais la patience pour ça, je pense. Même si je trouve ça vraiment cool. Et les rares fois, enfin les fois où je le fais, par exemple, pendant des années, j'ai fait du pain. Et à chaque fois, je sais qu'à chaque fournée, j'affinais en fait. Je savais vers où je voulais aller en termes de goût, en termes de texture. Et j'affinais en me disant, là, je vais tenter un truc différent quand je le fais lever. Là, je vais. Donc il y avait ce truc, mais du coup c'est pas tant minutieux dans chaque préparation de chaque pain, c'est plus entre les pains.
Oui.
J'ai besoin qu'il y ait un feedback, je pense. Plus...
C'est plus la recette qui évolue à chaque fois, mais vers quelque chose...
Je sais pas si c'est la recette, mais c'est en tout cas une attention par rapport à l'objet que je crée, ouais, qui s'affine. de prendre en compte de plus en plus de paramètres. Tu vois, s'il fait chaud, je vais le faire lever moins longtemps, ouais, s'il fait froid et tout. Mais je pense que ouais, j'ai besoin de ce feedback. Et l'acro yoga, je suis d'accord qu'il y a une minutie. En tout cas, tu es obligé d'être fin et de prendre en compte tous les paramètres. Justement, tu peux pas, si tu veux faire un équilibre sur les mains, tu peux pas ignorer où est ton bassin. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi le côté... Si tu as besoin à un moment de la jouer rentre dedans parce que ça t'amuse, tu peux aussi de te dire, vas-y, on se fait un truc hyper dur, on n'y arrive pas du tout et t'affines petit à petit. Et je pense que moi, j'ai besoin quand même de ce... J'ai du mal à l'exprimer, mais par exemple, l'origami, pour moi, il n'y aurait pas assez de... Entre le moment où je débute et le moment où l'objet est parfait, il n'y aurait pas vraiment d'étapes et du coup, je m'en lasserais vite. Alors que je trouve que l'acro-yoga, il y a des étapes un peu tout le temps.
Ah oui, d'accord. Parce que tu sens que tu progresses.
Ouais, tu sens que tu progresses, tu sens que tu comprends des choses, justement, tu ajoutes paramètres après. Ta compréhension du mouvement est meilleure après chaque essai, en fait, ouais.
Mm-hmm.
Et du coup, c'est jubilatoire de te dire, putain, j'ai un nouvel outil, en fait, faut mettre la main ici, faut faire attention à ce déport de centre de gravité, faut...
Ouais. Ouais, je suis d'accord que le processus d'apprentissage à l'acro est vraiment cool, quoi.
Ouais, ça fait je trouve qu'à la fois, il y a un truc, comme je disais, un peu jubilatoire d'y arriver, de gagner en puissance, et à la fois un truc un peu d'humilité, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu forces, c'est que contre toi-même, en fait. C'est que parce que t'es pas dans les bonnes lignes, dans les bons trucs, et que c'est un manque de propreté dans la technique, et que quand t'es bon, ça force quasi pas, en général.
Ouais, tout à fait.
Et la combinaison des deux est vraiment cool, ouais. Peut-être après, c'est parce que ça m'appartient pas, l'origami, c'est-à-dire que je sais même pas ce que c'est... Je pense que je saurais même pas dire ce que c'est le succès dans l'origami. Et tu vois, le pain, par exemple, je sais à quoi je veux arriver. Et dès qu'on est un peu trop à gauche, un peu trop à droite, je sais dire, ah, la prochaine fois, je vais rectifier en allant un peu plus vers là ou un peu plus vers là. Alors que l'origami, je me dis, je pourrais même finir un truc et c'est bien ou un peu bien fait ou mal fait. Je suis pas sûr que j'aurais pour autant des billes pour faire mieux ou une compréhension meilleure de l'origami. Après, j'en ai jamais fait, mais...
Ouais, mais... J'ai envie de dire, le succès, c'est toi qui décides. Hein.
Ouais, mais
ça te plaît ou pas, quoi.
Je pense que peut-être c'est parce que trop... le fait de faire une figure qui est celle de quelqu'un d'autre fait que j'arrive pas trop à me l'approprier et donc à me dire, là, c'est réussi ou pas, en fait. Peut-être c'est ça.
Ouais. Mais t'as déjà essayé d'inventer des flows ou des choses comme ça en acro?
Oui. Et c'est souvent... Ouais. Alors déjà, c'est peut-être un peu rare de trouver les gens qui ont la patience de vouloir explorer.
Ah ouais? Moi, je fais souvent ça maintenant.
Ok.
Ouais.
Mais c'est pas forcément le plus gratifiant pour moi. Mais... peut-être c'est pas le plus gratifiant parce qu'encore une fois il n'y a pas de vision du succès dans le sens où tu sais pas encore, donc un flow c'est un enchaînement de plusieurs figures et quand tu le fais tu sais pas encore où il va commencer, où il va finir, du coup tu sais pas ce qui te manque en fait à chaque moment et peut-être que ça me...
Mais il manque rien, il y a rien de trop, enfin c'est pas... c'est toi qui décides. Tu sais, je disais tout à l'heure que j'étais pas très bon dans tous les exercices d'improvisation.
Ouais.
Y a un exercice où j'essaye de vraiment m'améliorer. C'est d'improviser à l'acro.
Ouais.
Et en fait, j'aime vraiment ça. C'est... L'histoire, c'est que j'ai fait un workshop à Paris. Il y a un an. Ouais, un peu moins. Et j'ai vraiment kiffé ce workshop. C'était un workshop d'impro, hein, clairement.
Okay.
D'improvisation en acro, quoi. Et j'ai eu un moment très fort avec une meuf qui s'appelle Juliette, où on improvisait ensemble et c'était vraiment hyper fluide, hyper tout était agréable. Bref, c'était vraiment super. Et j'ai essayé de refaire ça, du coup. Et notamment quand je revois Juliette, à chaque fois, on joue à ça. Et en fait, je trouve que cet exercice est vraiment cool. Parce que, bon, Des fois, tu crées des flows, entre guillemets, t'inventes des flows et tu t'en rappelles pas, tu vois. Parce que bah, dans l'enchaînement du truc, on continue, on va pas s'arrêter à chaque fois pour dire ah, tiens, on a fait un truc nouveau. Des fois, tu t'en rappelles et c'est cool. Des fois, tu sors des bouts de trucs et t'essayes de les refaire. Mais bref, ce que je trouve vraiment le plus cool dans cet exercice, c'est le jeu avec l'autre, en fait. Parce que c'est vraiment un jeu. Ouais. Et peut-être c'est pour ça, je me rends compte maintenant, que j'y arrive mieux à cet exercice d'improvisation-là. C'est parce que c'est à plusieurs et qu'on joue vraiment, quoi.
Ouais.
C'est vrai que tout seul, j'ai pas envie, en fait. Hein.
Ah ouais, moi, je suis d'accord. Le fait d'être à deux... C'est 90% de ma motivation à l'acroyoga.
Ah bah vraiment, ouais.
Tu vois, avant je faisais du jonglage et puis j'étais vraiment assez bon, très très jeune, je jonglais vraiment bien. Et malgré toute cette technique, ce bagage technique, ça me faisait chier à mourir de jongler tout seul. J'adorais faire du passing, on appelle ça, de jongler à deux. Mais jongler tout seul, mais 5 minutes, j'en avais marre, quoi.
Okay.
Alors que c'était, je pense, ma passion la plus ardente à ce moment-là, de jongler à deux, tu vois. Et l'acroyoga, c'est encore plus fort parce qu'il y a en plus des questions de confiance, des questions de ressenti partagé. Tu sais, ça arrive très souvent où ça tombe et tous les deux disent « Merde, c'est ma faute ».
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Et, parce qu'on a chacun senti un déséquilibre, on a chacun pas très bien réagi, ou on n'était pas très bien placé dès le début. Et du coup, on est persuadé que sûrement que les deux ont fait quelque chose, mais peut-être si l'un des deux avait mieux réagi, il aurait pu sauver le truc. Et du coup, chacun se dit vraiment « Non, non, mais c'était moi qui aurais dû sauver, quoi ». Donc il y a une espèce de, à la fois d'extrême politesse, mais qui n'est pas relou comme la politesse qui peut empêcher l'authenticité. Au contraire, qui est une vraie marque d'attention, en fait. Et ouais.
Ouais, ouais.
Je trouve ça vraiment, vraiment très cool comme rapport. Ouais.
Mmh. Ah, clairement, le fait d'être à deux, c'est une grosse motivation à faire de l'accro. Ouais. Enfin, pour faire de l'accro.
Ouais. Pas motivation dans le sens comme quand t'as un partenaire qui vient avec toi faire des haltères, quoi. Vraiment, ah oui, oui. Un kiff, quoi.
Et parce qu'on est vraiment deux, on fait vraiment le truc à deux.
Ouais, ouais. Mmh. Ouais, et puis, t'as ce truc, comme dans toute collaboration idéale, t'as ce truc où tu peux à la fois assurer ton poste et à la fois admirer l'autre pour ce qu'il est en train de faire dans son poste que tu ne comprendras peut-être jamais.
Ouais, tout à
et
fait.
Ça, c'est quand même...
Tout à fait.
Bah, ces moments-là, ils sont précieux, quoi.
Mmh. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, j'ai essayé un peu de flyer récemment.
Mmh.
Et c'est vraiment difficile.
Moi, je trouve que c'est plus facile, mais...
Ah, après, voilà. Je trouve que... Non, je trouve que c'est plus dur. Ça demande beaucoup plus de proprioception, le fly.
Ouais, carrément.
La base, ça demande plus de finesse dans les mouvements de cuisses et de bras.
Ouais, d'écoute, de réactivité, de...
Écoute, ouais.
Et de, justement, trouver ces lignes, en fait, d'équilibre. Comme je disais un peu, de pas forcer parce que t'es... en diagonale, mais de vraiment chercher où est la gravité et comment je cale mes os par rapport à ça pour que je sois aligné avec ça et que ça soit la gravité qui force et pas moi, quoi.
Mm-hmm.
Et du coup, il y a cette espèce d'essentialité qui est assez cool. Ouais.
Mm. Ouais, c'est vrai que la base, ça me plaît beaucoup parce que c'est tout en finesse, quoi.
Mm.
Et, ouais. Et on rejoint un peu le côté ancré, tu vois, que tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a, je trouve ça se rejoint, ouais.
C'est vrai que je pense que moi, je fais les deux, mais je préfère flyer. Et effectivement, je pense qu'il y a un peu plus d'originalité dans le fait de flyer. Et effectivement, je pense que ça me manque un petit peu dans la base.
D'originalité ? Tu trouves que flyer, c'est plus divers comme truc ?
En tout cas, c'est plus...
Il y a plus de mouvements différents ?
Ouais, c'est plus divers, je pense.
D'accord, ouais.
Parce que des fois, tu vas vraiment chercher des choses qui sont des bascules... que ton corps soumis à la gravité quand t'es assis debout couché, que t'as pas l'habitude de faire, en fait.
Mmh.
Où tu vas envoyer ton poids derrière ton dos, où tu vas... Et ces moments-là, je les trouve cool, en fait, quand je me rends compte que mon corps est en train de faire quelque chose qu'il fait jamais. Et où même des fois, tu vois, par exemple, il y a un move dans le... Je crois que c'est l'hélicoptère, où t'es la tête en bas. Et en fait, il faut que tu tournes tes hanches par rapport à tes épaules. Et en fait, ça paraît simple quand tu le vois a priori, mais quand tu le fais, c'est très bizarre parce que normalement, on a l'habitude de faire ça, mais on a les pieds fixes et on tourne les épaules quand on est debout sur la terre. Et le fait de faire l'inverse, bah, tu te rends compte que tu ne l'as jamais fait de ta vie. Et il y a ce truc de découverte qui est assez fou. Ouais.
Mmh, ok, ouais. Mais effectivement, il y a plus de diversité dans les mouvements, je pense, pour le fly.
Ouais, il y a moins de finesse et plus de... Ouais, plus de diversité. Mmh. Plus de... un truc un peu renversant. Et ce truc de jeu avec le partenaire, du coup, c'est quelque chose que tu peux imaginer retrouver dans d'autres aspects de ta vie ou pas?
Ah, bien sûr, je joue tout le temps. À des jeux vidéo principalement, mais oui.
Et ce jeu de un peu impro, cette entente
Bah, j'avoue qu'il n'y a pas trop ça. Non, c'est pas aussi fort dans le jeu vidéo, même des jeux collaboratifs.
Okay.
Ou même des jeux de société collaboratifs, c'est jamais aussi fort qu'à la croix. Ouais.
Mmh. T'aimes bien les jeux collaboratifs ?
J'aime bien les jeux collaboratifs. Okay.
Moi, j'ai ce souvenir, je joue peu aux jeux vidéo, mais j'ai ce souvenir d'un jeu sur. C'est pas la Wii, c'est la Switch,
mm-hmm.
qu'un pote avait. C'était un petit jeu à la con, je sais même pas où il l'avait eu. Je crois que ça s'appelait Lovers in a Dangerous Universe. Je mettrai le lien en description.
Je connais pas.
Mais je crois que c'est vraiment un tout petit truc. Et j'avais trouvé ça mais trop puissant. En fait, t'es dans un vaisseau vu en 2D et ça se joue à entre 2 et 5 ou 2 et 4. Mais à 4, c'est vraiment cool. Et en fait, par exemple, si t'es à 4, dans le vaisseau, il y a 5 stations. Il y a genre, tu dois te balader dans un labyrinthe. Il faut pas que tu touches les murs, sinon tu abîmes le vaisseau. Et des fois, il y a des ennemis, il faut que tu leur tires dessus. Donc, t'as piloté le vaisseau, la carte pour savoir où tu vas voir de temps en temps, tirer sur les ennemis. T'as un bouclier que tu peux activer et placer là où un danger arrive. Et enfin, voilà, il y a 5 postes comme ça. Mais t'es que 4. Et du coup, il y a ce truc de chaise musicale un peu, et tu dois compter sur ce que vont faire tes potes, et tu ne peux pas, c'est impossible de donner de l'attention à tout. Du coup, des fois, tu te rends compte qu'il y a une crise de l'autre côté, de là où toi tu gérais, et que c'est en train d'être géré par tes potes, et t'as des profonds sentiments de gratitude qui sont assez ouf, je trouve.
Okay.
Et je pense que c'est pas pour rien que le jeu s'appelle Lovers in a Dangerous Universe et que tout est sur le thème de l'amour et tout. Je pense que c'est vraiment parce que ça te fait vraiment ressentir un amour pour tes potes quand tu joues. Ouais. Et j'avais trouvé ça trop fort. Et j'ai dû jouer 2 fois et demi et à chaque fois que j'entendais chez ces potes-là, je leur disais « Allez, on y joue !» Et ils me disaient « C'est de la merde, ce jeu !» Et pour eux, c'était parce que vraiment, graphiquement et tout, c'est pas ouf du tout. Et ils comprenaient pas trop pourquoi j'étais fasciné par ce jeu, mais je pense que c'est un des jeux qui m'a le plus touché dans son intention. Ouais.
Ok, ouais. Ouais. Il y a quoi comme jeu collaboratif que j'ai vraiment kiffé? Ah bah il y a It Takes Two, qui est vraiment un excellent jeu, j'ai trouvé. Où tu joues... Donc c'est un jeu à deux. L'histoire, c'est un couple qui va se séparer. Et l'enfant est très triste. Et les parents se retrouvent transformés en petites marionnettes de bois et de glaise. Et ils doivent faire des trucs ensemble... pour se sortir de là, quoi, parce qu'ils sont littéralement transformés en marionnettes, quoi. Et voilà, et c'est aussi sur le thème de l'amour. Bon, l'histoire est un peu cliché, mais bon. Mais j'ai trouvé le jeu vraiment bien. Parce qu'il faut vraiment collaborer avec l'autre pour arriver à faire des choses.
Bah, ça se sent, ouais, déjà, dans ce que tu racontes.
En plus, c'est pas symétrique. Les personnages n'auront pas les mêmes capacités.
Ouais.
Donc, bon, voilà.
Ok. C'est un peu comment on met nos différences de côté, puisqu'on sait qu'on est en train de se quitter, mais. On a tous les deux envie que ça le fasse pour l'enfant, quoi.
Exactement. Ouais. Ah, c'est ça.
Ça fait envie.
Ouais, excellent jeu.
Ok, je note.
It Takes Two. Ouais, meilleur jeu collaboratif auquel j'ai joué.
Ok. Est-ce que tu as une envie de quelque chose que tu voudrais écrire dans cette carte? Est-ce que ça te saoule de le faire ou est-ce que t'as pas
d'inspiration? C'est pas vraiment que ça me saoule, c'est que je... J'ai rien, quoi.
Ok. Pour quelqu'un qui est dans la transmission, t'as...
Ben, il faudrait savoir d'abord à qui je l'envoie, tu vois.
Mmh.
Puis la personne n'aura rien demandé. Donc...
Après, ça peut être métaphorique, ça peut être pour toi comme un rappel aussi, ça peut être... Envoyé dans une bouteille à la mer.
Ouais.
Toi, tu commences par qui? Tu commences pas par ce que tu voudrais dire?
Ah bah ouais. Enfin, ouais.
Ok. Genre si on part par exemple, tu vois, de ce qu'on a discuté là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais peut-être envie de je sais pas, d'en retirer, de partager, de montrer, de Ouais, il y a quand même le truc peut-être du vieux sage dans la transmission qui finalement a l'air de bien te ressembler, puisqu'en plus
de montrer, ouais.
Tu
ouais.
disais que c'est un truc qui
bah, c'est un truc récurrent, on m'en parle, on me le dit souvent. Ouais. Enfin souvent. Non, il faut quand même que les gens soient un minimum intime avec moi, sinon les gens jamais les gens disent ça.
Salut vieux sage.
Oui. Mais ouais, je sais pas.
Genre toi par exemple, si on te disait que t'as un tu peux écrire ce que tu veux sur un panneau dans un endroit où il y a énormément de trafic.
Qu'est-ce que j'écris ?
Ouais, t'aurais pas forcément d'envie d'un truc à mettre.
Si j'ai... Ouais, si. Si. S'il y a beaucoup de trafic, je pense que j'écris ACAB.
Ok. Ça veut dire quoi pour ça ?
Tous les flics sont des connards.
Ok.
Simple. Ouais. Un truc comme ça, un slogan anarchiste, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je sais pas. J'ai pas trop d'autres réponses. Qu'est-ce que je pourrais écrire sur un panneau ?
Et cette carte, au-delà d'écrire quelque chose dedans, est-ce qu'elle te donne envie d'en faire quelque chose ou pas ? De la garder ou sans plus ou de...
Bah, j'ai plus envie de la garder. Parce que... Bah, pour me rappeler de ce moment avec toi, quoi. Ouais, plus ça. J'ai beaucoup de souvenirs comme ça, enfin d'objets liés à des souvenirs.
Ouais.
J'aime bien ça. Ça permet de se rappeler.
Ok. C'est quoi la différence pour toi ? Parce que tu disais que tu prends pas beaucoup de photos. C'est quoi
la différence, c'est que c'est pas moi qui ai fait l'effort de me procurer l'objet.
Mmh.
Tu vois ? Si je fais une photo, c'est quand même moi qui ai pris la photo. C'est moi qui ai pris la décision de prendre la photo.
Ouais, ouais, carrément.
Si on m'envoie une carte postale, ça me touche beaucoup plus, quoi. Et c'est pour ça que je la garde, en fait.
Ok.
Tu vois ? Ou si on m'offre quelque chose. Alors qu'une photo, ça va pas me faire me rappeler du moment. Mmh. Si c'est moi qui l'ai prise. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a prise, peut-être que oui. Peut-être que ça va me faire rappeler plus.
Faut que ce soit chargé par quelque chose qui était vraiment à l'endroit à ce moment-là, plutôt que... ton intervention,
ouais.
Ta façon de le consigner, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Okay.
Ouais.
Ouais, je partage pas mal ça. Même si bah, je prends pas de photos, naturellement. Mais tu vois, si je devais en prendre, j'essaierais de me mettre dans l'intention de... Parce qu'il y a peut-être quelque chose de... Où tu te sens... séparé de l'expérience et où tu te dis bah, si c'est juste moi qui prends la photo, c'est juste un souvenir de moi mais pas un souvenir de l'expérience. Mmh. Et j'essaierai de me sentir un peu une approche religieuse avec le moment, de me dire bah, ce moment là il me contient et j'y suis dedans, du coup la photo elle est dedans aussi, mais ça serait un peu un acte volontaire pour moi, ça serait moins facile que juste de effectivement ramasser un caillou à cet endroit-là ou recevoir un cadeau. Ou là, c'est clair que l'objet il est tout de suite chargé des ouais. Souvenirs.
Je suis pas sûr d'avoir compris du coup ce que tu dis.
D'accord. C'est quoi ? T'as rien compris ou ?
C'est quoi la différence que tu fais entre prendre la photo et ramasser un caillou ?
Ben, je pense que c'est comme toi. C'est okay. Si je prends la photo. Tu vois, j'ai fait trois pas de recul par rapport à l'expérience pour prendre la photo,
ouais,
et du coup, je suis plus dedans.
Ouais.
Et la photo, du coup, elle est plus vraiment dedans. Alors que le caillou, il était là, c'est clair.
Mm.
Et du coup, dans ce caillou, il y a tout le sens du moment, quoi.
Ouais. Mm. Ouais, je suis assez d'accord avec ça.
Et donc, j'essaierai de me dire que la photo que je prends, elle est dans le moment, et donc elle contient ce sens-là. Mais ça serait moins naturel pour moi. C'est faut que je le fasse.
C'est un effort conscient, quoi.
Ouais, ouais. Mm. Si je devais me donner l'exercice de prendre une photo, je ferais ça pour en tirer mon parti, quoi.
Je vois. Ouais, ouais.
Mm. Mais ouais, je garde assez peu d'objets et tout, en plus d'expérience, mais pourtant, je peux les trouver forts, quoi. Et, Et c'est quelque chose que je fais plus depuis quelques années d'ailleurs, d'avoir envie de... Enfin, d'avoir un rapport aux choses, en fait, d'un moment qui m'a touché, et de me dire que quand... Bah, tu vois, hier, j'étais à un repas de famille, et c'est un repas qui se fait le 14 juillet traditionnellement dans ma famille depuis des années et des années.
Mm-hmm.
Et parce qu'on sait que c'est une date où il y a tout le monde, on sait un an en avance que les gens seront là vu que c'est férié. Et donc il y a un peu tout le monde à chaque fois. Et ma tante, à la fin du repas, elle a offert à tout le monde une impression A4 en noir et blanc pourri, tu vois, de deux photos de ma grand-mère et mon grand-père qui sont tous les deux morts quand ils étaient jeunes, en fait. Et j'ai trouvé ça profondément touchant, en fait. Et j'ai trouvé que c'était très à propos de le donner à ce moment-là et tout. Et donc vraiment, même si j'ai peu tendance à collecter ces choses-là, je sais les recevoir et les apprécier, c'est clair. Et je fais plus d'aller voir des lieux juste pour en me disant, en m'ouvrant à ce qu'ils peuvent m'offrir, ou voir des personnes pareilles. Ouais.
Ouais, ouais.
Et je pense qu'il y a un petit peu de ça dans mon envie de plus pouvoir aller voir des vieux. C'est, tu te dis, un peu comme le caillou qui est là depuis des millénaires. Le vieux, il est
comme le caillou.
Il a d'autant plus de... Il a mariné d'autant plus longtemps dans cette vie, tu vois. Donc, il a d'autant plus de... Une identité, une couleur à te transmettre, en fait.
À propos des vieux, j'ai dit ça à tout le monde, alors j'en parle. Très récemment, j'ai découvert une chanson de Jacques Brel qui s'appelle Les Vieux.
Ok.
Et on l'a écouté avec mon frère. Découverte avec mon frère. Et j'ai chialé comme un gosse, mais vraiment. Et lui aussi, il était très, très ému. Et pourquoi je dis ça? Ouais, parce que la chanson est hyper triste. C'est vraiment... tu sens la... Enfin, je sais pas, ouais. Triste et réaliste. Je sais pas comment dire. Voilà, si jamais tu as l'occasion d'écouter cette chanson.
Bah, je vais la mettre en lien de l'épisode, donc okay. Au moins okay. Je l'écouterai parce que je pense pas l'avoir déjà écouté.
Puis Jacques Brel, en plus, il a vraiment quelque chose pour transmettre des émotions que de... Je trouve qu'il voilà, il est très très bon à ça, transmettre des émotions. Ouais. Bref, voilà, okay, c'est tout ce que je voulais dire sur les vieux.
Bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Du coup, est-ce que tu veux garder cette carte comme ça? Est-ce que tu veux... T'es pas obligé d'écrire, hein. Vraiment, je te redemande, mais tu peux dire non.
Eh ben, je pense que pour l'instant, je vais la garder comme ça.
Ouais.
Peut-être à un moment, j'écrirai quelque chose dedans.
Ok.
Mais ça peut être dans 10 ans, quoi.
Très bien. Ça sera que tu penses quelque chose en rapport avec ce moment ou pas forcément?
Ah bah, si j'écris quelque chose... Oui, oui.
Ok.
Oui.
Du coup, à ton sens, c'est quoi qui pourrait changer entre maintenant et dans 10 ans par rapport à ce moment?
Peut-être dans 10 ans, je me rappellerai plus tellement du moment lui-même que de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, tu vois. Ou alors juste, peut-être je me rappellerai de détails très précis et qui représenteront peut-être un peu mieux ou pas forcément mieux, mais en tout cas... Qui marqueront un peu ce que j'ai le plus apprécié ou pas apprécié, mais enfin, mais comment on dit apprécié, mais pas au sens kiffé, tu vois.
Ouais, ouais. Dans ressentir toutes les textures, quoi.
Ouais, voilà.
Ok.
Peut-être dans 10 ans, ce qui restera, bah, ce sera ça l'essence, tu vois.
Ok. Et c'est important pour toi, ça, de le. Qu'est-ce qui fera que tu prendras un stylo potentiellement dans 10 ans et pas aujourd'hui, en fait. Enfin, alors tu disais ça... que c'était une possibilité que tu écrises dedans plus tard.
Ouais, c'est une possibilité.
C'est quoi qui te ferait déclencher, en fait?
Je sais pas. J'ai pas de... Je sais pas. Ok. J'ai pas de réponse.
Parce que moi, intuitivement, je me dirais... Enfin, moi, je... Si je...
Peut-être si on se revoit, tu vois.
Ok, ouais, d'accord.
Ouais, peut-être. Peut-être dans 10 ans, j'arrive... Imagine, on se voit pas pendant un long moment.
Ouais.
Peut-être dans 10 ans, je te ramène la carte avec un truc écrit dedans.
Ouais, ouais, carrément.
Ça peut me faire marrer, ouais. Ouais, vraiment.
Ok. Avec l'idée de revenir à l'essence, peut-être de... Est-ce qu'il y aurait, par exemple, si on se revoit, comme l'idée de... Finalement, au fond, l'essence de ce qu'on avait partagé à ce moment-là, c'était ça?
En tout cas, une proposition de...
Oh, c'est monsieur, ça. Tout de suite, humble. C'est un truc qui est important pour toi, ça, d'essayer de toucher les sens.
Ouais, j'aime bien. Ouais. Bah, je te disais, j'aime bien comprendre les choses, vraiment.
Mmh. Ok.
Mmh. Ouais. J'aime bien les maximes un peu prétentieuses sur la vie, tu vois. Je trouve que c'est en même temps joli d'essayer de résumer la vie avec des petites phrases de quelques mots, tu vois. Et en même temps, c'est vain. Mais c'est aussi pour ça que c'est joli. Voilà.
Mmh. Ah, moi, je pense que ce genre de choses, j'ai tendance à me dire... Alors, les maximes, ça me parle pas trop, mais moi, j'ai tendance à le faire à l'intérieur de moi. Pas forcément en passant par des mots. Des fois, oui, des fois, non. Et j'ai l'impression que ça te donne une clarté temporaire, comme une sorte de boussole temporaire, parce que c'est incomplet. Mais à la fois, ça t'éclaire peut-être sur... par exemple, je sais pas, une maxime, la vie c'est comme une boîte de chocolat. C'est la première chose qui me vient. Ça t'éclaire peut-être sur le fait que faut accepter que des fois tu vas être déçu et tout, et que c'est pas la fin des choses. C'est des cycles, et des fois ça serait mieux, des fois ça serait moins bien. C'est un exemple. Oui. Et que, du coup, ça peut m'aider à valider certains trucs, passer une étape dans mon évolution, et après cette maxime là, j'oublierai, et une autre m'aidera sur un autre truc. Et je trouve que ça t'aide à naviguer temporairement, quoi. Ouais.
Ouais, tout à fait, ouais.
Du coup, c'est pas si vain pour moi, tu vois.
Bah,
c'est vain de les écrire, peut-être.
Non, c'est pas ça, mais c'est... Jamais ça n'encapsule la vie dans sa totalité, tu vois.
C'est clair.
Si c'était ça, l'objectif, bah, c'est raté avant d'avoir commencé.
Mmh.
Mais la tentative est quand même jolie. Voilà. Enfin, des fois, c'est nul. Hein. Des fois, ça me touche pas du tout.
Ouais. Ouais,
voilà.
Eh ben écoute, est-ce que tu veux finir sur une maxime de ton cru ou...
De mon cru, non, j'en ai pas de mon cru.
Ou de ton souvenir.
De mon souvenir, j'ai. C'est une citation d'une chanson Disney.
Ok.
Parce qu'elle me vient en tête. Ça dit juste les cris ne sèchent pas les pleurs.
Mmh. Oh, bah, typiquement, ça, moi, c'est un truc que je pourrais imaginer m'aider à passer certaines étapes, quoi.
Voilà. Bah, ouais, tout à fait.
Mmh. Mmh. C'est un peu mieux que la vie est une boîte de Et ben écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Et merci beaucoup, Nero.
Ben, merci à toi, Alix.
Et salut, c'est encore moi. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous voulez retrouver la photo de la carte postale, rendez-vous sur rgalix.com/train-de-nuit et cliquez sur l'épisode correspondant. Sur cette page, vous trouverez aussi les notes de l'épisode où je liste les liens vers tout ce dont on a parlé dans l'épisode. Donc si vous pensez que vous avez peut-être raté une référence en écoutant, il y a de grandes chances qu'elle se trouve dans cette liste. rglx.com/train-de-nuit, tout attaché. Vous pourrez aussi vous abonner à la newsletter si vous voulez être au courant des prochains épisodes et de mes projets en tout genre. Et si l'envie vous prend de partager cet épisode avec une connaissance, j'apprécierai grandement. Et moi, je vous dis à la prochaine.